chapitre 25, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné les outils pour pouvoir tenir. Mais d'un autre côté, personne n'a dit que c'est facile. Et d'ailleurs, on dit bien, Yagata ou Matsata, Ta'amin. Quand on cherche, on trouve. Si on croit qu'on va trouver sans chercher, c'est qu'on n'a rien trouvé. Ça veut dire que avancer dans la Torah, c'est pas quelque chose qui vient tout seul. Avancer dans la Torah, c'est quelque chose qui vient avec beaucoup de fatigue, avec beaucoup de difficultés, avec des efforts. Ça, on a expliqué.
On n'a rien.
Alors, on a expliqué maintenant sur la notion de Higia. On a expliqué comment, en vérité, dans chaque aspect de la Torah, ça nécessite une fatigue, une yegia, un labeur. Et on a donné plusieurs exemples, mais après on a expliqué que c'est seulement des exemples qu'il donne et que chacun il va appliquer ça dans sa vie. On avait donné un exemple par rapport au limud à Torah. Celui qui a l'habitude, par exemple, d'étudier la Torah une heure par jour, et qu'on va lui dire maintenant tu vas étudier une heure et demie par jour. Ça s'appelle la fatigue, ça. Cette demi-heure supplémentaire, c'est de la fatigue. Celui qui a l'habitude d'étudier une heure par jour, et qu'on va lui dire pendant cette heure que tu étudies, tu vas essayer de mieux te concentrer. Ça veut dire que tu vas pas augmenter en quantité, mais tu vas augmenter en qualité. Cette augmentation en qualité est également une fatigue. Parce que dès qu'on dépasse ce qu'on a l'habitude de faire, dès qu'on quitte la zone de confort, ça s'appelle de la fatigue. On a parlé aussi la semaine dernière de la tfila. Quand une personne fait la tfila, on peut faire la tfila en tournant des pages. Et quand on essaye de se concentrer, c'est une guerre avec le Yetzer. Et ça peut être une guerre sur une page. C'est pas la quantité qui compte. Chacun à son niveau. Encore une fois, pour avancer dans la tfila, il faut forcément se battre avec son Yetzer. Tant qu'on sent qu'il n'y a pas de résistance, c'est que réellement on n'a pas avancé. Dernier exemple qu'on a donné, la semaine dernière, la tzedaka. Que pareil, on a expliqué pour la tzedaka. Le Yetzer, il ne nous laisse pas donner la tzedaka. Et s'il nous laisse donner, c'est qu'on n'a pas donné ce qu'on devait donner. Dès qu'on a envie de donner ce qu'on doit donner, tout de suite le Yetzer, il met un barrage, le Yetzer, il n'est pas d'accord. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi la yigia? C'est quoi la mitzvah de se fatiguer? La mitzvah de se fatiguer, c'est qu'on doit continuer et on doit persévérer, on doit rajouter, et il faut sentir que c'est un poids. Dès qu'on sent que c'est un poids, là ça veut dire qu'on a avancé. Alors, pourquoi il explique tout ça maintenant? Il dit, lorsqu'une personne il lit tout ça, il dit, mais c'est dur. Il dit, déjà faire la Torah et mitzvah, c'est compliqué. Tu veux les rendre plus compliqués que ça? Bien sûr que non. Il dit, attends, j'ai réussi finalement à trouver une zone de confort, j'ai réussi à trouver un terrain d'entente avec mon Yetzer Hara. Voilà, lui il me laisse ça, moi je lui laisse les vacances, etc. Chacun on se laisse donnant.
C'est un compromis.
Un compromis. Pour une fois que j'ai fait un compromis, t'es là maintenant à me dire, non, attention, le Yetzer Hara, il faut rien lui laisser, il faut rien lâcher, il faut lui laisser un os, il faut tout prendre, il faut se fatiguer. Pourquoi tu dois être comme ça? Alors en fait, sur ça, la Gemara Zaken a expliqué, il a dit, pour répondre à cette question, il faut qu'on revienne à notre juif du chapitre 18. Notre juif qui n'était pas religieux, mais qui, rappelez-vous, dès qu'on lui disait, convertis-toi ou on va te tuer, qu'est-ce qu'il fait?
Il se laisse tuer.
Pourquoi il se laisse tuer?
Parce que,
au fond de lui, il n'a pas le choix. C'est un instinct de judéité qui est plus fort que l'instinct de survie. Alors, Admor HaZaken, dans la rhétorique, il pose une question. Une question qui est bien sûr théorique, parce que j'aimerais qu'on arrive à se l'expliquer. Mais c'est une question qui est juste. On va parler à ce juif maintenant. On va lui dire, d'après toi, qu'est-ce qui est plus dur? Donner sa vie pour ne pas rentrer dans une église, ou se retenir, prendre 5 minutes de son temps supplémentaire pour étudier 5 minutes de plus de Torah? Mais évidemment, la question ne se pose même pas. Et pourtant, ce qui est curieux, et c'est extraordinaire parce que c'est la vie qui est comme ça, que pour un juif, donner 5 minutes supplémentaires de son temps pour étudier la Torah, ça peut être, et c'est plus dur, c'est plus dur que donner sa vie à Kadosh Baruch Hu quand on dit rentrer dans une église. Pourquoi?
Ma boule.
Parce que, non, c'est pas ma boule, ça c'est très simple. Parce que donner sa vie pour ne pas se convertir, c'est quelque chose d'évident pour moi, c'est pas un effort. C'est pas un effort, ça le pshat, c'est pas un effort. C'est une évidence. Donc comme c'est pas un effort, je vais le faire. Alors que les 5 minutes que je vais donner à Kadosh Baruch Hu, ces 5 minutes sont quelque chose qui ne vient pas naturellement. Et quand c'est quelque chose qui ne vient pas naturellement, ça demande un grand effort. Donc vous voyez, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, nous, on croit que pour donner sa vie à Kadosh Baruch Hu, il faut passer par le brasier, il faut passer par des choses extraordinaires, par des choses... En vérité, le chidouche du Tania, c'est que tu vas faire un effort pour étudier 5 minutes. Tu vas faire un effort parce que ta femme t'a dit quelque chose et tu vas te retenir de ne pas lui répondre, etc., etc. Ta femme ou ton collègue, etc. Eh bien, cette seconde que tu vas te retenir, ça vaut plus que celui qui a donné sa vie pour un Kadosh Baruch Hu. Parce que pour lui, c'est normal de donner sa vie. Pour toi, c'était pas normal de te taire maintenant.
dur.
Non, il n'y a pas plus de mérite que celui qui a.
C'est plus fort. C'est plus fort, bien sûr.
On parle fort.
Bien sûr, c'est ce qu'il dit ici. De facilité. C'est beaucoup plus facile. C'est plus facile de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu que de se retenir, de ne pas répondre.
Il y a deux façons, hein, comment donner sa vie. Tu as deux cas. Tu as le cas où on te dit tout de suite, tu te convertis ou je te tue. C'est à la seconde même. D'accord. Tu attendras que tu te tuer. Là, quand on te dit, prends une semaine pour réfléchir. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ok, je prends la semaine pour réfléchir. Même Rav Amnon, il a pris la semaine pour réfléchir.
Non, mais c'est évident, ça. Je veux pas me laisser tuer tout de suite.
Donc, et t'as l'instinct de survivre.
Non, c'est pas ça. C'est que, je veux dire, entre temps, on va regretter, entre temps, on va trouver une solution. Bien sûr qu'on veut vivre. J'ai pas dit qu'un juif veut mourir. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que l'effort que ça demande sur la personne, eh ben, comme c'est quelque chose de normal que je sais que je veux le faire, finalement, c'est quelque chose qui est difficile, mais c'est pas un grand effort. Mais donner 5 minutes de son temps se retenir, comme dans ma tête c'est quelque chose qui est normal de faire, pour moi je dis non, c'est normal, il m'a attaqué, je dois répondre. Comme c'est normal de le faire, donc me retenir de faire quelque chose qui pour moi est normal et de ne pas le faire quand même, très compliqué. Et c'est en vérité, c'est des grands conflits qu'on a dans la vie, ça. Pourquoi? Parce que moi je pense que c'est normal que ça se passe comme ça, l'autre il pense que c'est normal que ça se passe comme ça. Et quand chacun y pense que c'est normal que ça se passe comme ça, tu mets l'un contre l'autre, c'est le feu, c'est la guerre. C'est ce qu'il te dit ici. Il te dit ici que 5 minutes tu vas rajouter une chose sur laquelle tu vas te fatiguer, quand tu sens que c'est difficile, Béhémet, en vérité, ça a un mérite extraordinaire, et tu as fait un effort qui est encore beaucoup plus dur que donner sa vie pour la Kadosh Baruch.
Quand c'est difficile, on met plus de quantité que de qualité.
Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. On ne rajoute pas concrètement.
Même si on le fait, ça sera
faut être honnête, vérité, on va être honnête. Comment on avance dans la Torah? En général, ceux qui ont commencé quand ils étaient enfants, ils ont grandi, ils ont fait l'école, après ils ont fait bon, etc., l'université, ils ont un travail, ils sont mariés. Après, ils prennent une vitesse de croisière, on prend une vitesse de croisière et on avance. On augmente très peu après. Même ceux qui ont fait tchouva à 40 ans. Alors au début, c'est sûr que c'est une fusée, après on prend une vitesse de croisière et il avance. Il faut dire la vérité, à un moment on se fatigue plus. Moi je parle pour moi en tout cas. À un moment on se fatigue beaucoup moins en tout cas, presque plus. Et là vient le chidouche du Tania chapitre 25 qui te dit, un juif il a été créé pour se fatiguer. Il doit constamment être en train de se renouveler. De la même manière que Dieu renouvelle son monde à chaque instant, je dois constamment être en train de me renouveler. C'est très compliqué. Ça veut dire qu'il faut avoir des ambitions énormes. Comme si une entreprise, tout le temps ils se remettent en question comment on peut faire pour améliorer le produit. Ils vont aller au top. La vérité, c'est que ceux-là, ils vont aller au top. Mais c'est très compliqué quand un produit qui tourne déjà, tu te dis, ça va, laisse le produit, il tourne. Maintenant, pourquoi tu te prends la tête? Ben, c'est un peu ça. Nous, on nous demande, on te dit, le produit, il tourne, il faut l'améliorer encore. Là, tu peux être sûr que le produit, il peut que... Hein, il peut que se développer. Voilà. Bon. Alors, on va continuer maintenant. On est à l'étude du 29 Shvat. Veyichudze.
C'est toujours
c'est pour ça?
Non,
exactement. Tu verras que les grandes sociétés, même les sociétés qui tournent très très bien, ils ont une grosse partie de leur budget qui part
R&D.
En R&D, d'accord, ça veut dire recherche et développement. Et c'est normal, parce qu'il faut toujours.
Parce que si tu n'innoves pas, tu régresses.
Mais là, le chidouche, tu veux, de l'Edmour HaZaken, c'est plus que ça, dans la Torah. C'est que, c'est pas seulement qu'il y a un bureau que, dans lequel on s'occupe d'imaginer là-bas le futur de la boîte. C'est que chaque employé à chaque bureau, chaque matin quand il arrive au boulot, il se dit comment je peux faire mon boulot aujourd'hui mieux que ce que je fais d'habitude. Et ça, c'est très dur, on n'arrive pas à réfléchir comme ça.
Ça dépend.
On réfléchit pas comme ça, il faut dire la vérité. Moi, je parle pour moi, je réfléchis pas du tout comme ça. Une fois que tu as pris une vitesse de croisière, ça tourne. C'est comme ça. Et là vient le chidouche pour te dire qu'il faut se fatiguer. Alors, on est Veyichudze. Alors, je suis ici. Oui, non, mais je vais chercher dans les mots.
Bonsoir.
Alors, excusez-moi.
On est là,
non? Oui, non, je sais, non, mais... Voilà, Veyichudze, c'est bon. Veyichudze, cette union. En fait, il explique ici maintenant l'Admor HaZaken que, finalement, quand on réfléchit, c'est encore plus fort quand je vais me retenir pour rajouter 5 minutes de Torah que quand je vais donner ma vie pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Combien de temps va durer le Messirut Nefesh pour donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu? Combien de temps ça va durer concrètement?
Le temps d'exécution.
Mais l'exécution va durer combien de temps?
Une seconde. Ça dépend.
C'est-à-dire que finalement, j'ai donné ma vie combien de temps? Une seconde. Maintenant, imaginez une personne qui a un caractère, un sale caractère, parce qu'on a tous un aspect mauvais dans notre caractère, et que ce sale caractère, il se travaille dessus toute sa vie. C'est-à-dire que c'est pas Stam qui a fait Messirut Nefesh une seconde dans sa vie. Chaque jour, plusieurs fois par jour, il fait mes sirut nefesh.
Un jour il craque.
Ah bien sûr, c'est pas un jour il craque, c'est qu'en général ça marche pas. Faut dire la vérité. Mais la Gemara Zaken veut t'expliquer comment il faut pas négliger les petites choses de la vie de tous les jours. Nous on croit que quand on fait mes sirut nefesh c'est énorme. Tu dis non, mes sirut nefesh d'abord c'est quelque chose qui est normal chez toi. C'est sûr que tu vas le faire. En plus c'est quelque chose qui dure un instant. Alors que donner, avoir l'abnégation d'étudier, de rajouter dans la Torah, de rajouter dans la Tzedaka, de rajouter dans la Tfila, de me taire, de ne pas faire un Lashon Hara, c'est des choses de la vie de tous les jours qui me paraissent normales de faire, donc c'est très dur à me retenir de ne pas les faire. Et en plus, c'est des choses qui se répètent constamment. C'est des choses qui peuvent se répéter plusieurs dizaines de fois par jour. Donc ça veut dire qu'en vérité, sans se rendre compte, on fait mes sirut nefesh plusieurs fois par jour. C'est ce que tu dis là de Mora Zaken. Et tu dis, si tu réfléchis à ça, hein, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, mais attends, tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire que plusieurs fois par jour, je peux avoir un niveau plus fort que celui qui est en train de donner sa vie pour la Kadosh Baruch Hu. Vous savez, aujourd'hui, c'est le 12 Tamouz. Le 12 Tamouz, c'est le jour de la libération du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Rabbi Yosef Yitzhak, il était en URSS, 1927, et il a été emprisonné. Pourquoi il a été emprisonné? Parce qu'il a fait du forex. D'accord. Il a été emprisonné parce que... Ah, c'est à la mode, aujourd'hui, parle de ça. Pourquoi il a été emprisonné? Il a été emprisonné parce que, à cette époque, diffuser la Torah et les mitzvot était une activité contre-révolutionnaire. Ça veut dire, on avait le droit éventuellement d'étudier la Torah dans son coin, mais diffuser la Torah, c'est-à-dire fonder des écoles, fonder des mikvés, etc., fonder des yeshivot, c'était contre-révolutionnaire. Bien sûr, c'est pas ce qui a arrêté le rabbi précédent. Et le rabbi précédent, il a quand même fait Messirut Nefesh, il a poussé des élèves à lui à fonder des yeshivot, lui-même il en a fondé. Et finalement, bien sûr que, vous savez, les Russes, c'est pas des imbéciles, donc ils ont cherché la tête. Quand ils ont cherché la tête, ils sont arrivés sur qui? Sur le rabbi précédent. Ils l'ont pris en prison. Il était déjà assez malade. Ils l'ont pris en prison. Et c'était clair quand ils l'ont pris en prison qu'ils voulaient le tuer. On a retrouvé aujourd'hui dans les archives, d'accord? Parce qu'il y a les archives, vous savez, les Russes, ils gardent tout. C'était écrit qu'ils devaient le tuer. Ils avaient prévu de le tuer. Et il est parti pour donner sa vie. Il a donné sa vie. D'accord? Et après, progressivement, Baruch Hashem, Dieu a fait un miracle. Que d'abord, on a échangé ce décret contre, au lieu d'avoir un décret de mourir, il va être exilé. Et après, ça a été encore une fois, ça a été une fois promulgué, donc c'était changé. Qu'au lieu d'aller en exil, il va être sauvé. Baruch Hashem, il a pu sortir pour retrouver ses racines, mais on lui a dit, vous devez quitter la Russie. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est très intéressant. Le rabbi précédent, quand il est arrivé aux États-Unis, parce qu'à par la suite, il est parti en Pologne, après il est parti aux États-Unis, il était en Europe en 1941, donc il a vécu tout ça. Il a vécu la guerre, etc. Et il a raconté, quand il est arrivé aux États-Unis, il a dit, les gens, ils pensent que le Messirut Nefesh se passe là-bas, se passe en URSS, etc. Mais en vérité, il a dit, le Messirut Nefesh n'est pas que là-bas, le Messirut Nefesh est aussi ici à New York. Parce que par exemple, à cette époque-là, au New York de cette époque, en 1941, il y avait beaucoup de juifs qui étaient religieux. Religieux, oui, c'est comme ça qu'ils se faisaient appeler religieux. Mais que, ils faisaient pas Shabbat. C'est pas qu'ils faisaient pas Shabbat. C'est qu'ils allaient travailler Shabbat. Parce qu'à cette époque-là, c'était pratiquement impossible, à moins d'être patron. Et encore, même un patron.
C'était un jour
où on travaillait. Et les gens, ils savaient, quand ils venaient à New York, qu'on leur disait, l'Amérique, c'est différent. Ce qu'on a fait en Europe, c'est en Europe. Maintenant, l'Amérique, c'est différent. Et leur ami précédent, quand il est arrivé aux États-Unis, il a dit, moi, mon but, c'est de prouver que l'Amérique n'est pas différente. Et que la même Torah qu'on a gardée dans le vieux Shtetl en Europe, on peut garder cette même Torah aux États-Unis. Maintenant, il y a eu toutes sortes de rabbins qui sont venus le voir. Des gens qui l'ont dit, écoutez, vous savez, vous êtes nouveau à New York. On va vous expliquer comment les choses se passent à New York. On veut pas que vous tombez de haut, quoi. Ils ont essayé de le calmer. Et bien sûr que lui, il s'est pas calmé. Il a continué. Il y a eu une fois un discours dans lequel il a dit que, sur certains aspects, c'était plus difficile de combattre la glace de l'Amérique que de combattre l'opposition qu'il y avait en URSS. Pourquoi? Parce que quelque part en URSS, comme les juifs se faisaient attaquer, donc dans la tête de tout le monde, c'était normal qu'il fallait donner sa vie. Seulement, il y en avait qui réussissaient facilement, il y en avait qui réussissaient moins facilement, mais c'était quelque chose de normal. Mais quand on a une situation dans laquelle on vit bien, dans laquelle tout va bien, etc., et que bon, le challenge, c'est que peut-être je travaillais que 5-6 heures par jour pendant Shabbat, et que bon, je vais essayer de ne pas écrire, je sais, etc. D'ailleurs, en passant, vous avez dit, je ne sais pas si vous avez remarqué aux États-Unis, dans beaucoup d'enseignes, taxis ou trucs comme ça, ils vous mettent dans leur carte de visite, dans leur enseigne, chômer Shabbat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Maintenant, vous comprendrez pourquoi. De mettre chômer Shabbat, parce qu'à l'époque, c'était tellement rare, les boutiques chômer Shabbat, que pour essayer de... Parce que comme les pauvres, ils fermaient le Shabbat, donc c'est compliqué pour eux, les pauvres, les riches. Donc du coup, ils mettaient dans l'enseigne chômer Shabbat, et comme ça, ceux qui gardent le Shabbat disaient, ah, celui-là, il est le chômer Shabbat, on va aller chez lui.
Et ils allaient chez lui le samedi. Bah,
non. C'était écrit pour te dire à quel point c'était un, pour te dire à quel point c'était un événement.
Ah, dommage,
celui qui était chômeur Shabbat.
Dommage, pas
et j'ai trouvé récemment des cartes de visite, c'est comme ça.
Génial.
D'accord? Un truc de car service. Il a gardé les mêmes cartes de visite qu'il avait à l'époque. Tu vois, la carte de visite avec le numéro de téléphone, c'est écrit en gros en haut, chômeur Shabbat. J'ai jamais t'en vu ça en France, en Israël, chômeur Shabbat. Quel rapport? Pourquoi je vous raconte ta vie maintenant, chômeur Shabbat? Parce que c'était pas populaire. C'était pas populaire pour eux de garder Shabbat. Pourquoi je vous explique ça?
Mais ça paraît quand même assez surprenant qu'ils sont arrivés à...
Écoute, tu sais, les gens, ils arrivaient là-bas, venaient avec la barbe, et ils lâchaient la barbe.
Non, mais c'est la couille.
On dit que, tu sais, il y a une blague, on dit que, avant d'arriver aux États-Unis, ils passaient par la France. Et on dit comme ça, on dit que les villes de Paris étaient pleines de crainte de Dieu. Parce que le juif, il venait à Paris et il laissait leur crainte de Dieu dans les rues de Paris. C'est une blague ashkénaze, très ancienne.
Hein? Quoi?
Je
peux
te couper. On peut dire secours à l'enfant.
Oui, on l'a dit tout à l'heure.
Ouais, exact.
Alors, je reprends. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour montrer que le rabbi précédent lui-même, qui a vécu des événements extraordinaires quand il était en Russie, eh ben, il a dit que, quelque part, combattre la glace américaine, c'était peut-être plus compliqué que combattre ce qu'il y avait aux États-Unis. Et d'ailleurs, dans le dernier Mahamar que notre rabbi... Dans le dernier Mahamar que le rabbi a dit, il a expliqué, il a dit, même en France, c'est comme ça.
Mais c'est-à-dire qu'on voit nos yeux maintenant, mais c'est vrai que même une époque en France...
Par exemple, à Julien Lacroix, ça fait 30 ans, il y avait un office tous les matins, à 7h du matin, Shabbat. Ouais. C'était connu, tout le monde savait.
Il savait qu'il venait à l'office.
Il savait qu'il allait travailler après.
Tu vas à
synagogue, Julien Lacroix, dans le 20e.
Oui, je me souviens, moi, j'étais gamin, il y avait un office.
Il y avait un office à 7h du matin, tout le monde savait, les gens, ils allaient bosser après.
Mais c'est vrai encore.
Dans les années 50, le samedi n'était pas chômé, le samedi.
Non. D'accord. Allez, on va dire le Chaim. Chaim, Chaim.
Donc, grâce à Dieu,
on
a la chance aujourd'hui.
On a fait du chemin. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour montrer, j'étais en train de dire que le rabbi, dans le dernier mamar qu'il a fait, il a expliqué, il a dit, on a vu des juifs, des chassidim, que lorsqu'ils étaient en URSS, on a vu comment ils sont dévoués corps et âme pour Akadosh Baruch Hu. Comment c'était des gens qui avaient une abnégation absolue. Et ces mêmes personnes, lorsque Baruch Hashem, ils ont pu s'en sortir, ils sont arrivés à New York, dès qu'on lui dit, viens passer 5 minutes de ton temps pour aller parler à un juif, il n'a pas le temps. Comment ça s'explique? Et là, il a expliqué le rabbi, il a dit, c'est comme ça que ça s'explique. Que quand on était en URSS, il s'agissait de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est relativement facile, relativement accessible. Mais des fois, faire un petit effort quand tout va bien, c'est plus compliqué que faire un effort extraordinaire quand tout va mal. Et c'est la réalité, c'est comme ça. Donc, d'où, c'est pour ça que le chapitre 25 est un chapitre très important, qui t'explique. Il te dit, il faut jamais négliger les petits efforts. Jamais. Jamais dire, moi, si c'est pas un grand effort, je fais rien du tout. Mais les petits efforts valent plus que les grands efforts. Parce que c'est facile de faire un grand effort, mais un petit effort, c'est très difficile à faire. Prendre des grandes décisions, c'est facile. Mais prendre une petite décision, je vais arrêter ça, je vais arrêter cette petite avéra, je vais arrêter cette petite chose. Très compliqué. On a beaucoup de mal.
Pardon, est-ce qu'on a une motivation particulière quand on est dans une période de danger, de résistance?
Évidemment.
Et c'est cette motivation qui disparaît quand on est dans un système de confort ou de liberté?
Plus c'est gros, plus ça passe. C'est-à-dire quand c'est gros, automatiquement c'est la neshama qui ressort. Mais quand c'est des petites choses, ça va, c'est pas grave, c'est rien. C'est ça le piège. D'accord?
Mais tu l'as dit, tu l'avais déjà dit ça.
Que quoi?
Que une mitzvah, elle n'a pas autant d'impact que si c'est quelqu'un qui fait Shabbat tout le temps, et que celui qui n'a pas l'habitude de faire Shabbat, qui fait un dixième de ce que l'on a fait, ça voit à peu près la même chose.
Oui, tu as raison. Mais là, le chidouche qu'on veut expliquer aujourd'hui, c'est de donner de l'importance aux petits efforts qu'on fait dans la vie de tous les jours. Comme on dit, il y a un proverbe qui dit il n'y a pas de petites économies. Non, il n'y a pas un proverbe qui dit comme ça. Hein? Il n'y a pas un proverbe qui dit comme ça. Il n'y a pas de petites économies. Il n'y a pas de petites économies. Ça veut dire, ça n'existe pas. Les gens, ils pensent, non, soit je fais des grosses économies, soit je fais rien du tout. Ça marche pas comme ça. Mais faire des petites économies, c'est très dur, parce que tu dis ça va, c'est pas grave.
Il
n'y a pas de petits profits. Ah, mais c'est vrai. Parce que quand c'est un petit truc, tu dis c'est pas grave, je le vois pas. C'est comme, tiens, je vais vous donner un exemple qu'on peut répéter aux femmes. C'est comme par exemple quelqu'un qui fait le régime. Quand tu lui dis, on va te faire un big régime. Tu lui dis, voilà, maintenant tu vas perdre, je sais pas moi, 20 kilos en 2 semaines. Bah, un big régime. Et ben, c'est plus facile de faire un gros régime que de faire un petit régime dans lequel tu dis, tu vas faire de petites modifications et tu vas perdre 100 grammes par semaine. C'est très difficile le petit régime, parce que quand c'est un petit régime, tu dis bon, ça va, c'est pas grave, aujourd'hui je.
Sur la longueur.
Et c'est plus difficile, ce qu'il explique ici. D'accord ? Donc deux points, on a expliqué. Premièrement, on a dit que celui qui fait Messirut Nefesh, c'est quelque, pour donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de relativement facile parce que c'est inné. Alors que faire Messirut Nefesh pour se retenir, pour rajouter dans la Torah, dans les mitzvot, se retenir, de ne pas faire un lachonara, etc., c'est plus compliqué. Et deuxième chose qu'on a expliqué, c'est que le Messirut Nefesh de donner sa vie pour Dieu, combien de temps il dure ? Une seconde. Alors que le Messirut Nefesh de me retenir, de rajouter dans la Torah, d'augmenter, de me taire, de ne pas parler, de ne pas m'énerver, combien de temps il dure celui-là ? Toute ma vie il dure celui-là, il ne me lâche pas, toute ma vie.
Si je le tiens.
Si je le tiens. Ah oui ? Si je le tiens. Oui, mais c'est un ridouche, ça. Ça veut dire que les gens, des fois, ils pensent, j'ai essayé 100 fois et j'ai raté 15 fois, donc ça veut dire que ça ne marche pas. Je te dis non. C'est-à-dire, t'as fait, ça veut dire que sur 100 fois que tu devais faire Messirut Nefesh, tu as réussi 85 fois.
Tu oui, regardes ça comme un bilan. Mais celui qui le vit, le vit comme un échec. C'est
non, c'est, justement, c'est pas un échec. Faut pas le voir. Faut pas le voir dans la globalité. Faut le voir chaque instant. Chaque seconde que je me retiens, que je fais un effort, c'est gagné.
Donc, autrement dit, si j'ai 99, si j'ai 1 contre 99, j'ai gagné.
Même ça, c'est gagné. Bien sûr. Ça dépend de mon effort. J'ai gagné 1. L'abnégation.
Quoi?
L'abnégation, c'est l'abnégation. L'abnégation, ça veut dire mettre de côté sa personne.
D'accord.
Alors, dans les mots, on y va. Donc, Veyichoutze, je suis à Veyichoutze, vous avez Veyichoutze ? Allez, on va avancer un peu dans le texte. On va carburer un petit peu. Alors, Veyichoutze, les mala ou nitri de Olam Vaed. Cette union qu'on va avoir avec Akadosh Baruch Hu lorsqu'on fait une mitzvah, c'est une union qui reste ad vitam aeternam. Ki hu itbarer urtsono le mala meazman, vechen, gilui retsono shebedibro shewa Torah ou nitri, kumo shekatu ou dvar elokenu ekum le olam. Il encourage encore le juif. Il dit, tu sais, toi tu crois par exemple que tu t'es retenu. Tu vas rentrer ce soir chez toi à la maison et tu vas prendre 5 minutes pour étudier la Torah. 5 minutes. Et tu vas dire ces 5 minutes, finalement, quels impacts elles ont ? Ça vaut que 5 minutes. Ben, écoutez le troisième point qu'il rajoute. Il dit, 5 minutes d'union que tu as avec Akadosh Baruch Hu ont une union éternelle, ont un impact éternel avec Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire, c'est pas comme nous les hommes on pense que quand je travaillais et j'ai gagné 5 euros, ben j'ai gagné 5 euros, une fois que les 5 euros sont terminés, c'est terminé. Ça marche pas comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Avec Akadosh Baruch Hu, quand je fais une mitzvah et je m'unis avec lui, cette union est éternelle. L'impact de cette union est éternel. Alors c'est vrai que peut-être après je vais faire des averot qui auront aussi un autre impact négatif, mais l'impact de cette mitzvah est un impact qui est éternel. C'est pour ça que maintenant on s'adresse aux juifs, aux petits juifs comme nous, aux juifs simples qui fait des petits efforts dans la vie de tous les jours. On lui dit tes petits efforts valent de l'or. Tes petits efforts d'abord, c'est des choses qui sont très dures pour toi à faire, donc ça vaut de l'or. En plus, tu les fais constamment. Et en plus, ces petits efforts que tu fais ont un impact constant. Pourquoi ? Parce qu'il dit, Akadosh Baruch Hu est au-delà de la notion du temps et de l'espace. Donc moi, quand je fais une mitzvah, même si elle a duré 30 secondes, pour moi elle a duré 30 secondes, mais puisque Akadosh Baruch Hu est au-delà du temps et de l'espace. Donc l'impact positif que j'ai fait est un impact qui va à Tzof Adorot, qui va jusqu'à la fin des générations. Vous allez me dire, oui, mais d'un autre côté, on fait des averot, qui elles aussi ont un impact très grave. C'est vrai. Et ça veut dire qu'il faut comprendre que quand on fait une mitzvah, ça n'a pas des retombées uniquement sur ma personne, mais ça a des retombées sur toute l'humanité et au-delà de l'humanité, même sur ce qui transcende le monde, ça veut dire même sur ce qui est au-delà du temps et de l'espace. Ça veut dire que quand on fait une mitzvah, c'est comme si j'envoie une flèche et je n'ai aucune idée où elle va arriver. Une flèche. C'est une flèche qu'on envoie vers un Kadosh Baruch Hu. Et après, en haut, c'est qu'elle peut monter, 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 elle ne s'arrête jamais. On dépasse la notion de temps et d'espace quand on arrive chez Kadosh Baruch Hu.
Sur la Vera aussi, non ?
Sur la Vera aussi. C'est vrai. Mais une mitzvah, ça a plus de force qu'une Vera.
Donc on gagne.
On gagne, oui, j'espère qu'on va gagner.
On fait tout pour gagner, quoi.
Mais ça veut dire que, pour te montrer, il ne faut jamais négliger les petits efforts. Jamais. C'est avec les petits efforts qu'on se construit. Donc moi, chez Katou, comme c'est écrit, Udvarav, Chaim, Vekayamim, Vechoulé, etc. Velo Yachali, Velo Yamin, Atololem. Donc là, il donne quelques preuves. D'après, je ne veux pas m'arrêter dessus dans les détails. Mais ici, il veut expliquer qu'on voit d'ici qu'il y a plusieurs versets qui disent que la parole d'Akadosh Baruch Hu a un impact éternel. Les paroles de Dieu sont éternelles. Dieu ne change jamais. Ça veut dire que quand on fait une mitzvah, ça a un impact éternel. C'est comme le Rambam, il dit. Rambam Maïmonide, il dit que quand un juif fait une mitzvah, il doit s'imaginer que le monde est posé sur une balance. Pile à 50. 50-50. Et que d'un côté, il y a 50% de mérite. D'un autre côté, il y a 50% de averot. Et que Dieu, il ne sait pas comment il va juger le monde. Et vous savez comment c'est une balance. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une balance. Pas les balances électriques. D'accord ? Mais des fois, un gramme peut faire pencher la balance. Parce qu'il y a un équilibre. Et dès que l'équilibre est parti, Eh ben, un gramme peut faire pencher la balance. Eh ben, dit le Rambam, chaque fois que tu fais une mitzvah, tu dois t'imaginer que le monde est sur une balance shakul, une balance qui est exactement égale. Tu as fait une mitzvah, avec ta mitzvah, tu peux balancer le monde vers le bien. Tu as fait une avéra, avec ta avéra, tu peux balancer le monde dans le mal, chas v'shalom. Ça veut dire que le Rambam, il nous a habitués à voir grand. À pas voir simplement de mon côté à moi, moi, Mandy Assouline, de mon côté dans ma personne, quand j'ai fait une avéra, qu'est-ce que ça va me faire à moi? Rambam, il nous a appris à voir grand. Que quand on fait une mitzvah, on change le monde. Et quand on fait une avéra aussi, on change le monde. C'est ce qu'il te dit ici. Une mitzvah a un impact éternel. Donc, faut jamais négliger les petits efforts. Il n'y a rien qui est petit. Parce que moi, je crois que pour moi, c'était petit. Mais l'impact que ça va avoir est un impact qui est ad vitam aeternam, qui va jusqu'à la fin des temps. Il explique ici, dans le commentaire que j'ai ici, il explique que c'est la raison pour laquelle un des fondements, vous savez qu'il y a 13 fondements du judaïsme. Et un des 13 fondements du judaïsme, c'est que Dieu ne change pas. En quoi c'est un fondement du judaïsme? Il explique ici, c'est un des fondements du judaïsme pour t'expliquer, d'abord que la Torah ne changera pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la version, il y a 3000 ans et la version 2015, c'est la même Torah. Mais c'est pour t'apprendre aussi à apprécier l'ampleur d'une mitzvah. L'impact d'une mitzvah est un impact qui est éternel, qui va jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça qu'on te dit, Dieu ne change pas, Dieu c'est la vérité, et la vérité c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. La vérité, quelque chose qui s'arrête jamais. Je vais vous donner un exemple pour ça. Vous savez, dans la paracha de la semaine dernière, la paracha Chukat, on a parlé, dans la paracha Chukat, on a dit que on devait mélanger les cendres de la vache rousse avec de l'eau. Cette eau devait être de l'eau de vie, pas de l'alcool, de l'eau de vie. C'est quoi Maïm Chaïm? C'est de l'eau d'une source qui ne s'arrête jamais. Et la Gemara pose la question. Elle dit, c'est quoi une...
On va trouver cette source.
Alors justement, la Gemara pose la question, elle dit, mais il y avait une fois une histoire dans laquelle il y avait une ville, il y avait un ruisseau qui coulait, et les anciens de la ville savaient que ce ruisseau, une fois tous les 7 ans, il s'arrête. Oui, il y avait plusieurs critères par rapport à la neige, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais en tout cas, on savait que tous les 7 ans, il s'arrêtait. Mais il s'arrêtait pendant quelques jours, et après, quand il repartait pour 7 ans. La question était posée aux sages. Est-ce que ce ruisseau est cachère pour la para Adouma? Qu'est-ce qu'ont répondu les maîtres? Ils ont répondu, il n'est pas cachère. Pourquoi? Ils ont dit parce que c'est écrit Maïm Chaïm, de l'eau de vie. Et c'est quoi la vie? La vie, c'est la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce qui ne meurt pas, ce qui s'arrête jamais. Donc, du fait qu'on sait qu'un jour il va s'arrêter, ça veut dire que même quand il tourne, il ne tombe pas en vérité à 100%. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu pour nous, c'est quoi? C'est la vie. Une mitzvah, c'est la vie. La vie, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Une mitzvah a un impact qui est éternel, qui ne s'arrêtera jamais. Tant qu'il est enclenché, il peut y aller jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger la moindre petite mitzvah. Et ça, c'est un argument que j'entends souvent. Vous savez, des fois, quand on va dans les magasins ou quand on va chez les gens, on va leur proposer de mettre les tefillines, de faire une mitzvah. Le gars, il dit, mais avec toute la vérité que j'ai fait, à quoi ça sert une mitzvah? Et quand tu lui expliques que même une mitzvah qu'il va faire, ça peut changer le monde. Et c'est mamash comme ça. Le Rambam, il dit comme ça. C'est les mots du Rambam. Il dit qu'avec une mitzvah, on peut amener Mashiach. On ne sait pas si c'est laquelle qui va amener Mashiach.
Hein? Justement. Celle que tu vas faire.
La gueule.
Tu dois être persuadé que ta mitzvah, ton idée, va être l'idée qui va changer le monde. Il faut voir grand, il faut arrêter de voir petit. Il faut arrêter de croire que c'est les petits efforts. C'est les très grands efforts ce qu'on fait. Il faut apprendre à apprécier les efforts qu'on fait.
Tu nous as pas dit où on trouvait cette eau de vie?
On cherchait une source que, d'après les anciens, elle s'est jamais arrêtée. Si on voit une source, par exemple, et que les anciens disent, moi depuis que je suis petit, elle a toujours été là, elle s'est jamais arrêtée, on dit dans ce cas-là, ça veut dire que c'est une source qui est là pour rester.
Continue.
Comme la mer, etc. Alors. On continue. Oui, pardon.
Oui, c'est
un mikvé. Ça peut être un mikvé aussi, mais le mikvé, on n'a pas besoin de maïm chaïm. Le mikvé, ça peut être de l'eau de pluie.
Oui, il y a une notion de cycle.
De cycle, fait. Ouais. Non, mais là, dans maïm chaïm, ça veut dire qu'on doit prendre de l'eau qui ne s'arrête pas. Alors, tout ça pour expliquer quoi? Pour dire que, en vérité, une mitzvah a un impact éternel. Et là seulement, chez les mata, pour celui qui est en bas, tachatazman, ou beota, seulement, il dit c'est vrai, certes, que là pour l'instant on s'envole un petit peu, et quand tu dis tu fais une mitzvah, t'as changé le monde, et la mitzvah a un impact éternel, mais nous on sait très bien, nous qui vivons dans un corps en chair et en os, que quand j'ai fait une mitzvah, combien de temps a duré la mitzvah? Et l'impact de la mitzvah il dure combien de temps?
Tout le temps.
Non mais non, parle-moi comme un homme, pas comme un ange.
Le temps.
T'as fait une mitzvah. T'es venu à un cours de Tania.
Oui.
T'as fait une mitzvah. Combien de temps il va durer l'impact du cours italien?
La prochaine blague, il va faire dans 20 ans.
Pourquoi? Je la regarde après la leçon.
Non mais je parle pas la leçon, je parle l'impact.
Ah, de la vie.
L'impact, elle reste en moi.
Il reste en toi, mais combien de temps il va rester?
Dans ta pensée.
Il va rester jusqu'à la prochaine bêtise. Je parle pour moi. D'accord?
Tu vas la prochaine blague.
Ça veut dire comme ça. Ce qui explique ici la demande à Zakaï, il te dit. C'est vrai qu'on sait au fond de nous que quand on fait une mitzvah, on change le monde. Mais d'un autre côté, on sait très bien que quand on vit dans un corps matériel ici-bas, on sait très bien qu'on ressent pas les choses comme ça. Et nous, on a l'habitude de réfléchir, d'analyser les choses dans leur effet qui est visible. Tu comprends? C'est-à-dire, j'ai cassé quelque chose, pour moi, ce que j'ai cassé, c'est ce que je vois, ce que j'ai cassé. Mais dans ce qu'il y a derrière, je dis, moi, j'en sais rien. Moi, ce que je vois que j'ai cassé, c'est ce que j'ai cassé. Ce que je vois pas, ben, j'ai pas cassé. Ce que je vois que j'ai construit, c'est ce que j'ai construit. Ce que j'ai pas vu, j'ai pas construit. Mais il faut savoir que ça, c'est uniquement la manière comment on voit les choses avec nos yeux en chair et en os. Qu'on analyse une chose, la construction, la destruction, par rapport à ce que nos yeux veulent bien voir. Et là, c'est forcément limité. Ça dure un certain temps. Mais en vérité, par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à la vérité des choses, quand je fais une mitzvah, la mitzvah a un impact éternel, même si c'est une petite mitzvah. Une mitzvah peut être très très petite.
Ça ne nous parle pas.
D'accord. Pourquoi ça ne parle pas trop?
C'est limité.
Pas du tout. C'est des petites choses. Tu rentres chez toi à la maison, d'accord, t'as quelqu'un qui dit quelque chose, peu importe qui, et un truc que, et tout ce qu'il faut pour te faire sauter. Tout est là. Tous les ingrédients sont là. D'abord, elle a tort, d'accord? Enfin, elle ou il, hein, j'ai pas de... D'accord? D'abord, elle a tort, d'accord? En plus, elle n'arrête pas, en plus, ça, etc. T'as tous les ingrédients pour te défendre. Et même, tu sais quoi, tu dis, même si j'arrive devant Dieu maintenant, je peux me défendre. Je peux vous expliquer pourquoi je devais me défendre. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es.
Oui, mais la fois où tu vas t'énerver, tu vas emmener tout ce que tu t'es pas énervé, tu vas avec toi.
Pas du tout, pas du tout. Tu vas voir, pas du tout. C'est shalom.
On dit que c'est la goutte.
Non. C'est les petits efforts.
Mais pas toi.
Un petit effort qu'on fait a un impact éternel. Il faut jamais négliger les petits efforts, jamais. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un par exemple, il va se dire, bah, je me suis levé en retard maintenant, qu'est-ce que je vais arriver à la synagogue pour un quart d'heure de tuila, laisse tomber, pour avoir un kaddish, je venais pour un kaddish maintenant, laisse tomber, on verra demain. On te dit même un kaddish, ça te gagne. Un kaddish que tu vas écouter, c'est un impact éternel. Il faut apprendre à apprécier les petites choses. Les petits efforts. Et c'est dans ça qu'on voit la vraie valeur. Ne pas que pour un kaddish, hein.
Non.
Qu'il apprécie ce qu'il a.
Ça marche. Là?
Ça marche.
C'est à quoi ça marche?
La marche aussi, ça marche.
Oui, la marche, ça compte, mais bon, c'est pas un encouragement. N'y voyez pas un encouragement pour venir en retard.
Non, jamais de la vie.
Mais ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup appris du rabbi, ça. C'est quelque chose qu'on a beaucoup appris du rabbi, d'accorder de l'importance aux petites choses. Les gens, ils venaient voir le rabbi, ils étaient complètement à côté de la plaque, et le rabbi leur disait, faites une mitzvah. Mettez les tefillin une fois par semaine. Faites du schéma Israël avec. Pour un juif religieux, c'est une aberration. Il dit, mais attends, le bonhomme, il fait une fois par semaine. Je sais pas ce qu'il a fait avant, je sais pas ce qu'il va faire après. Il met les tefillin, il y a 30 secondes, il fait schéma Israël, il lit avec plein d'erreurs, il comprend pas ce qu'il dit. Bon, laisse tomber, quoi, c'est raté, quoi. C'est mort, rien à faire. Et pourtant. On a vu comment ça a changé des vies des gens. Parce que une mitzvah a un impact éternel. Il faut pas s'arrêter là, il faut avancer. Mais une mitzvah a un impact éternel. Il faut jamais négliger les petites mitzvahs, les petites choses. Et d'ailleurs, il dit, c'est pour ça que c'est très intéressant ce qu'il va dire ici. Il dit, ve'ayinu kesheosek keharkar, imosek bedavar acher, nifrad mechudon el mata. Il dit, en vérité, pourquoi on a l'impression qu'une mitzvah a un impact limité? Pourquoi nous on a l'impression comme ça? Parce qu'après que je fais la mitzvah, quelques minutes plus tard, je passe à une avera. Et quand je passe à une avera, je me dis, bon, j'ai construit, j'ai détruit, ça y est, c'est fini, on liquide maintenant, caca de chou. Ça marche pas comme ça. J'ai construit une maison, j'ai détruit une autre maison. Mais c'est les deux maisons qui sont différentes, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, la maison que j'ai construite, elle reste toujours là. Vous me suivez? C'est-à-dire, c'est pas, les gens, ils pensent, je me suis nettoyé, je me suis sali. C'est pas comme ça que ça marche. Chaque mitzvah que je fais, c'est un placement. Chaque avera que je fais, c'est une dépense. Mais c'est pas le même compte, c'est des comptes différents. Donc quand on va arriver en haut, chaque mitzvah que j'ai fait, j'ai construit quelque chose. J'ai construit, et c'est une construction qui est éternelle, qui bouge pas. Chaque avéra que j'ai fait, j'ai aussi détérioré, j'ai détruit, c'est sûr ça. Donc pour nous montrer encore une fois l'importance de faire même les petites choses. Maintenant, il va poser une question intéressante. Il dit, des fois on a l'impression, et surtout sur les petites choses, qu'on promet toujours qu'on va s'améliorer, et concrètement on s'améliore pas. Et la vérité, à un moment on se dit, bon, basta, ça y est, c'est fini. Bah, j'ai compris, je veux pas changer sur ça. Change de cheval, fais autre chose. D'accord?
Je crois c'est militaire.
Ouais, c'est militaire, c'est bon.
Ah, il veut rentrer, je crois.
Moi, je pense pas, il est passionné. Viens. Laisse tomber. Alors, je reprends. Donc, pour résumer ce qu'on a expliqué au début du cours, n'hésitez pas à m'arrêter hein, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. On a expliqué au début du... La semaine dernière, on a expliqué l'importance de l'effort. Dans le cours d'aujourd'hui, on a parlé de l'importance des petits efforts. Et que dans les petits efforts, constants, dans la vie de tous les jours, ça a un impact plus fort que le Messirut Nefesh de la vie pour Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est quelque chose qui est récurrent, qui ne t'arrête pas, qui ne te lâche pas, et que c'est très difficile. On a expliqué que quand je fais même une petite mitzvah, elle a un impact éternel. D'accord, tout ça c'est magnifique. Mais le problème qu'on va poser maintenant, c'est que d'un autre côté, des fois ça nous arrive, on se connaît, on sait très bien hein, qu'on se bat constamment sur les mêmes choses.
Je l'ai dit, mais...
Ouais. D'accord. On se bat constamment, on termine à 22h, ouais. On se bat constamment sur les mêmes choses. Je me bats constamment sur les mêmes choses. Et je vois qu'à chaque fois, quand je vais dormir, après que j'ai fauté, je promets à Kadosh Baruch Hu, je te promets que je recommencerai plus. Et pourtant, même pas 2 heures plus tard, tu recommences. Hein, vous me suivez? Alors, quelle valeur ça? Est-ce que, je vais être un peu dur, mais est-ce que quelque part on se moque pas de Dieu? Ouais, excusez-moi, moi quand quelqu'un il se moque de moi, tu vois.
Ça dépend de nos pensées.
Il me dit, je te promets, je recommencerai plus. Et que 2 heures plus tard, il recommence, et qu'il me fait ça tous les jours. J'ai dit, bon, écoute.
C'est toujours pareil, au moment où il le dit,
voilà.
Ça dépend. Sur le coup, c'est bon, et après.
Alors quoi, mais attends, il faut être sérieux, on n'est pas
c'est
des.
Comme un alcoolique, c'est la même chose.
On n'est pas des rigolos, là.
Ça n'est pas des.
Le pauvre.
On n'est pas des rigolos. Alors, toi, tu veux dire, c'est maladif?
Ouais.
C'est maladif?
Comme un alcoolique.
Moi, je dis, c'est comme un
alcoolique. Il est en train de boire, il est malade, et pendant qu'il est malade, il dit, je recommencerai plus. Quand il a fini d'être malade, il recommence.
Après ça, j'arrête.
D'accord.
Et c'est mon dernier. C'est que toi, quand quelqu'un, tu dis, il recommence pas, tu ne vas pas le pousser à recommencer. Alors que Dieu, tu dis, il recommence pas, mais Dieu derrière, il te repousse à recommencer.
Ouais, attends, doucement.
Je
pas forcément votre.
Oh là là.
Il a pas dit les
chahuts, c'est une accusation.
C'est une attaque en règle, ça. C'est une attaque en règle.
Non, non, il veut que tu t'élèves à Kadosh Baruch
Hu. Le Tzara, on le. Qu'on appelle ça? On le nourrit. On le. Qu'on appelle pas le nourrir.
On a quelle Gemara, ça?
On l'entretient. On l'alimente.
On n'a pas la même Gemara.
Non, mais.
Chahim.
C'est-à-dire pour quelqu'un d'étranger, ça peut paraître pas sérieux comme comportement.
Bien sûr.
Mais généralement, les gens qui te sont proches ou que tu aimes, parce qu'il doit y avoir aussi ce sentiment, tu vas être beaucoup
plus compréhensif. Tous les deux ans,
tu vas être beaucoup plus compréhensif.
C'est vrai.
Comme pour un enfant. Et j'imagine que c'est la relation que nous avons avec Dieu.
Alors, tu as raison. Ce que tu dis, c'est très juste. Tu as entendu ce qu'il a dit?
Non.
Il dit que finalement, c'est ça la relation qu'on a avec le Kadosh Baruch Hu, que bon, constamment, on veut s'améliorer et on veut vraiment bien faire. Ça?
Pas seulement.
Et que, en vérité, au fond de nous, c'est la démarche qu'un homme a, qu'il a fauté, mais il veut s'améliorer.
Oui, et puis de l'autre côté, je parle de la relation que Dieu
a
vis-à-vis de nous, c'est de se dire, bon, ok, je sais très bien qu'il fait des avérotes, et puis c'est pas que je lui pardonne, je vais être plus permissif parce que je l'aime.
Parce que je l'aime, d'accord. Donc toi, tu veux dire...
Comme une relation d'un père...
Je comprends, c'est un très bon exemple en relation père-fils. Alors justement, on va développer ça, c'est un très bon point. Ici, il explique l'Admor HaZaken, tu dis un point très simple. Quand tu prends une très grande décision, la grande décision, en général, il y a de fortes chances qu'elle va tenir. Ouais. Parce que quand c'est gros, ça tient. Mais quand c'est des petites choses que tu prends dans la vie de tous les jours, tu as beaucoup plus de mal à les tenir. C'est des petites choses, des petits détails, un mot que j'aurais pas dû dire, un truc que j'aurais pas dû dire, un regard que j'aurais pas dû avoir, une parole que j'aurais pas dû sortir. Des petites choses. D'accord ? Attends, justement. Et pourtant, on nous a expliqué ici que ces petites choses ont un impact éternel. C'est clair, pas de problème. Mais d'un autre côté, tu dis, l'Admor HaZaken, le piège qu'on a dans les petites choses, c'est que finalement, ils nous accompagnent toute notre vie. Et toute notre vie, on retombe sur les mêmes petites choses. Alors, dans ce cas-là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que quelque part, on n'est pas en train de se moquer d'Akadosh Baruch Hu? Et est-ce qu'à un moment, Akadosh Baruch Hu ne va pas dire, écoute, quand tu seras vraiment sérieux, tu viens me voir, entre-temps, fais ta route, je fais la mienne, et on la sent. Écoutez, maintenant, la réponse qu'il va donner, je pense, c'est une réponse magnifique. On n'est pas avant Kippour, mais on aurait pu être avant Kippour. C'est une réponse magnifique qu'il va donner. Ve'afal Piken. Et quand même, alors je suis à Ve'afal Piken, au milieu de la page 317. Ve'afal Piken et quand même. Le juif, il a promis de faire des efforts, des petits efforts, mais il a promis de les faire. Dès qu'il retourne dans la vie de tous les jours, il retombe. Et pourtant, Keshechoser l'avodat Hashem acharkar, dès qu'il se replonge dans la Torah, les Torahs et les Tfilas, dans la Torah et dans la prière, alors, il revient, ou mevakesh mechila me akadosh baruch hu, il va demander pardon à Kadosh baruch hu, al shaya efshar lo la sok as ba Torah velo asak. Ça veut dire comme ça, je prends des décisions, je dis ça y est, aujourd'hui je vais m'améliorer. Je prends la décision, je commence à m'améliorer, et pas qu'après je retombe. quand je me relance après dans la Torah et les mitzvot, je regrette encore une fois. Quand je vais faire ma tefila demain matin, quand je vais faire ma tefila ce soir, je vais regretter encore une fois. Quand je vais commencer ma mida, je vais dire Slach lanu avinu, pardonne-nous notre père. Je vais me dire la vérité, j'ai promis à Kadosh Baruch Hu de ne pas recommencer et j'ai recommencé. Maintenant, je vous pose une question. Combien de fois par jour vous faites la mida?
Trois
fois. D'accord?
Voilà. Il y en a qu'on dit 5.
Alors, c'est le juge de Kippour qui fait 5 amidot. À Kippour, on fait 5 amidot.
Il s'est trompé de trottoir.
Alors, 3 amidot. Dans les 3 amidot qu'on fait en semaine,
ils ont perdu la tête.
Tous les jours, dans les 3 amidot, qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? À Motai, on demande à Kadosh Baruch Hu, Slach lanu avinu kichatanu. Pardonne-nous notre père car on a fauté. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous avez la émouna que quand on demande pardon à Kadosh Baruch Hu, Dieu nous a pardonné?
Oui.
D'après vous?
Sur bien.
Amen qui nous pardonne.
Nous m'avons fait modèle.
Amen qui nous pardonne.
On dit Baruch Ata Hashem, Chanun Hammarbe l'histoire. Dans la même bracha, on demande à Dieu de nous pardonner. Et on conclut la bracha en disant, toi tu es miséricordieux, qui est Marbe l'histoire, ça veut dire qui pardonne.
Donc
ça veut
dire...
Non, il pardonne. Nous avons la émouna qui l'a pardonné. Alors j'ai une question à te poser. Très simple. Non, c'est très simple. Attendez, laissez-moi arriver. J'ai fait Shacharit ce matin.
Pour les gros...
J'ai demandé pardon à Kadosh Baruch Hu.
Ouais.
J'ai la Mouna qui me l'a accordé.
Ouais.
D'accord. 7 heures plus tard, je redemande à Mincha encore pardon.
Oui. Parce qu'il y a eu 7 heures.
Attendez, c'est plus compliqué que ça. Entre Mincha et Arvit, j'ai fait Mincha, j'ai demandé pardon de moi. D'accord. Une demi-heure plus tard ou une heure plus tard, je redemande encore une fois pardon de moi.
Pas la même chose.
Si je redemande pardon de moi, ça veut dire qu'entre les deux amidotes, c'est quand je crois en amour. Entre les deux amidotes, j'ai fauté.
Ouais, mais...
Parce que sinon, j'ai pas envie de dire Slachlanou. Et en plus, vous savez que dire une bracha en vain, c'est très grave.
Ouais.
Ça veut dire que si je refais la bracha, c'est-à-dire que je suis sûr de mon coup, que je vais demander pardon à Dieu 3 fois par jour, pour des bêtises que je refais 3 fois par jour, et qu'à chaque fois, je promets de plus recommencer, et que je recommence 3 fois par jour, et Dieu, il continue à me pardonner.
Mais c'est pas que pour nous qu'on demande pardon.
Non, on va s'occuper de nous déjà.
Déjà,
pour nous, l'Amida. Pour qui, alors?
Toi,
t'es un tzaddik, David. Je parle de moi. Nous, entre une Amida et une autre, on a posé.
David, tu pries pour les autres.
Oui. Bah oui, si tu pries pour les autres, comme ça, la bénédiction t'a accordé.
Pas du tout. Là, pour nous, et qui a fauté? C'est nous qui avons fauté.
Je vais prier pour que vous ayez tous en bonne santé.
Mais sûr qu'on a fauté. On a tous fauté. Qui n'a pas fauté?
Rien que le fait de ne pas étudier, c'est une faute.
Exactement. Rien que le fait de ne pas étudier la Torah, c'est une faute. Et chaque fois, tu dis, ah, je vais faire les efforts, cette fois-ci, je vais m'améliorer, je veux pas retomber, etc. Mais concrètement, tu retombes. Alors, ce qu'il te dit ici, il te dit, la question qu'on a posée, est-ce que c'est pas Chassé Shalom, une moquerie envers Kadosh Baruch Hu? Il dit, non, c'est pas une moquerie. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a une force extraordinaire, c'est qu'il a une patience que aucun homme peut avoir. Quel homme pouvait trouver qui a une patience pour pardonner 3 fois par jour? Moi, j'ai pas trouvé. Même les gens ultra patients, à un moment, ils disent, écoute,
Non, c'est
pas
un homme, c'est un
dieu. Hein? Ah, c'est quoi le pshat? Tout à l'heure, quand on a posé la question, il y a plusieurs qui ont dit cette réponse, qui est une réponse très juste, qu'on a expliqué dans Tania précédemment, qu'en vérité, un juif, c'est extraordinaire. D'un côté, on a un corps, d'un côté, on a une neshama. Alors, bien sûr, qui c'est qui nous pousse à fauter? C'est le corps. C'est le yitzhara, c'est le corps. Mais dès qu'on laisse parler un peu la neshama, tout de suite, on regrette. Mais c'est extraordinaire, parce qu'en vérité, on a 2 moteurs en nous. Et donc, autant quand je fais une avéra, je vais être à fond dedans, je vais baigner dans ma avéra. Et autant, dès que je vais commencer à lire la Torah, je vais commencer à venir à un cours, je vais commencer à ouvrir mon sidour, je vais faire une teshuva comme si je suis devenu un grand tzaddik. Et béhémet, au fond de moi, je suis devenu un grand tzaddik. C'est-à-dire que béhémet, quand tu me demandes au fond de moi, s'il y avait un détecteur de mensonges, qui pour me dire, est-ce que ce bonhomme à la côté s'engage à plus recommencer, est-ce que béhémet s'engage à plus recommencer, et ben le détecteur de mensonges, j'aurais dit, il dit vrai. Hein, on le fait tous les kippours, tous les jours en vérité.
Le plus dur, c'est d'ouvrir le livre.
Oui, mais kippour, on le dit par exemple.
Hein?
Écoute, David, à kippour, tu as demandé pardon à Dieu?
Oui.
Cette année? Et l'année dernière, tu lui as demandé pardon?
Bien sûr.
Et l'année prochaine, tu lui as demandé pardon?
Matin, midi et soir, on demande pardon.
Très bien, alors c'est à peu près sur la même chose qu'on demande pardon.
Certainement.
Alors? C'est-à-dire, tu lui as demandé pardon, mais c'est très bien qu'il y aura un kippour l'année prochaine.
Au bout d'un moment, on demande pardon d'avoir demandé pardon.
Non, le pchat est très simple.
Il y en a même qui disent comme ça. Pourquoi je vais demander pardon?
Puisque je sais que vous refaites. Exactement, bonne question. Voilà, bonne question.
Mais moi d'accord.
Non, mais il a raison.
Il me dit,
ça veut dire qu'à la limite, il dit, écoute, je suis pas prêt, ça sert à rien.
Parce que dans ta pensée, tu veux te.
Ça, c'est la réponse. Ça, c'est la réponse du chapitre 25. La réponse, chapitre 25 est, si une mitzvah avait un impact seulement temporaire, là, effectivement, j'aurais dit, À quoi ça sert de gagner 1 euro pour perdre 10 euros après? Ça change rien. Vraiment, tu vas le perdre, cet euro-là. Et comme il va un impact éternel, alors on te dit, fais ce que tu peux faire. Et bien, mec, la Neshama, le juif, quand il fait teshuva, au moment où il promet à Dieu de plus recommencer, au fond de lui, il veut plus recommencer. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est justement l'exemple que tu as donné. C'est là que je voulais arriver. Le gosse. Un gosse. Un enfant, je sais pas, 3, 4, 5 ans, qui fait une bêtise. Et qui refait tous les jours la même bêtise. Et après qu'il fait la bêtise, il pleure, mais avec des larmes. Et il dit, je te promets, je recommencerai plus. Tu peux lui mettre un détecteur de mensonges. Le gosse, il est sincère à 100%. Et pourtant, il retombe. Prends pardon, parce qu'on sent qu'il est sincère. Tu sens qu'il est sincère. Ça, c'est le pchat.
Et puis, t'as gagné.
Le pchat, c'est qu'en vérité, au moment où je dis que je veux plus recommencer, au moment où je demande à Kadosh Baruch Hu Slachlanu, je suis sincère à 100%. Ah, je vais refauter après. Bon, ben, je vais refauter après. Mais au moins, au moment où j'ai demandé pardon, j'étais sincère à 100%. Et si, grâce au pardon que j'ai demandé, on a pu gagner 5 minutes de Torah, eh ben, c'est ça de gagner. Voilà. Ça, c'est ça de gagner. Et à Kadosh Baruch Hu, il est prêt à être patient. Longanime, il attend. Il se dit, si je peux gagner 5 minutes de Torah d'un juif parce qu'il sent qu'il a été pardonné, eh ben c'est ça, c'est bon à prendre. C'est extraordinaire. Aucun homme n'aurait été capable de dire ça. Parce qu'encore une fois, les mitzvot ont un impact éternel, donc tout est bon à prendre. Même 1 seconde de limoud, ça vaut le coup. Même 1 seconde. 1 seconde de retenue, 1 seconde de bonne parole, 1 seconde de tefila, 1 seconde de Torah, même 1 seconde. Parce que Dieu est plus haut que le temps et l'espace. Et donc quand je fais une mitzvah, elle a un impact qui dépasse le temps et l'espace. C'est ce qu'il dit ici. Que quand une personne transgresse des mitzvot et qu'il fait teshuva, on lui pardonne. Et même 3 fois par jour. Donc faut pas hésiter. C'est justement sur les petites choses comme ça, on essaye. Et à un moment, ça décroche.
Juste une chose. Rien que je comprenne le compte. Vas-y. Tu me dis, je fais un compte, je fais une mitzvah, je crée un compte.
Nickel, il est parti dans les comptes.
Nickel.
Attends. Je crédite un compte positif.
Oui.
Et je fais une avera, elle va où là?
C'est pas je crédite, je construis.
En tant que chèque.
Ok, d'accord, j'ai construit, j'ai mis une planche. Et okay. La avera, elle fait quoi?
La avera, elle s'allume à Neshama.
D'accord, mais quand j'arrive, quand le compte il arrive.
À qui porte
ce que j'ai construit. On ne l'enlèvera jamais.
Et alors pourquoi on fait la balance entre la avérote et les. Et
parce
les...
que d'un côté j'ai construit.
Ce que j'ai construit, je l'ai construit.
D'un côté, c'est une bonne question. Parce que d'un côté j'ai construit, mais d'un autre côté j'ai fait des gaffes sur moi-même. Donc à Kadosh Baruch Hu, par rapport à ça, il se pose la question, celui-là, est-ce que ça vaut le coup de rejouer avec lui l'année prochaine?
D'accord.
Ah oui, tu comprends?
Non.
Bah, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si t'as un excellent commercial, qui fait des supers affaires, mais qui claque tout de l'autre côté. Il fait des bêtises, il dépense, etc. Prends les cartes, il dépense. Donc quand t'arrives la date où tu dois renouer le contrat, tu dis bon.
Il sert à rien.
Non, c'est, voilà, tu mais dis.
Ça peut être une construction aussi avec des bases.
Mais les clients qu'il a trouvés, c'est des bons clients. Tu peux pas les enlever. Tu comprends? C'est un peu ça ce qu'on, on est comme ça. On est des commerciaux de Dieu, mais bon, on gagne là et on perd là. Mais c'est comme ce qu'on a gagné, c'est gagner la vie.
Voilà.
Et c'est pour ça qu'il dit ici, il faut jamais négliger même petite mitzvah. Rien.
Si tu fais rien, tu perds.
Et la avera, elle est gagnée à vie ou elle est perdue à vie?
Non, la avera, c'est une salissure à vie. Mais après, quand on arrive en haut au Gehinnom, on est nettoyé de ça.
Alors si on est nettoyé, quel est le problème?
Ben, parce que.
Quel est le problème? Attends, tu me dis qu'il y a une construction, elle est pérenne, et en plus on est pas au kasher.
C'est pas un nettoyage, c'est pas un nettoyage soft. C'est un nettoyage au Jex. C'est la machine à laver.
Mais ça fait mal, le Jex.
On l'avait vu la semaine dernière.
Oui.
Quelle est la différence entre
parce que la différence avec le Hreta Véachouv, c'est que celui qui a dit Hreta Véachouv, dès le départ quand il a fait le Tchouva, cette Tchouva n'était pas absolue.
Non, je vais fauter maintenant.
Oui.
Après, je ferai une Tchouva, je
ah, d'accord,
après.
Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le départ, il comptait sur la Tchouva pour fauter. Donc ça veut dire que la Tchouva qui est censée le défendre, c'est son accusation, parce que finalement il a fauté à cause de la Tchouva.
Oui, c'est-à-dire que vous avez clavé le route de la
Teshuvah. Sans ça, il n'aurait pas fauté. Là, c'est différent. Là, on parle d'un juif comme nous. Qu'au moment où je dis je ne recommencerai plus. Ouais. Non, mais c'est la vérité. On se connaît tous. Ouais. Quand on fait une bêtise et qu'après la bêtise, on dit je ne recommencerai plus, au moment où tu dis je ne recommencerai plus, tu es sincère que vraiment, tu aimerais ne plus recommencer. Après, est-ce que ça va marcher ou pas? Bon, tu n'es pas bête, tu sais très bien que probablement tu vas renfoncer quelques fois. Mais au fond de toi, vraiment, tu aimerais ne plus recommencer. C'est très particulier. Il faut savoir que ça, c'est très particulier aux juifs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait un cours il y a quelques mois. On avait expliqué que Dieu nous a donné une qualité, mais qui est très dérangeante. C'est qu'un juif, il ne peut pas kiffer une avéra à 100%. Il a fait l'avéra. Bah, vous avez kiffé maintenant.
C'est ça, c'est vrai.
D'accord, t'as kiffé maintenant. Bah, vas-y, va jusqu'au bout maintenant. Bah, kiffe au moins, sinon tu vas payer. Alors vas-y, éclate-toi maintenant. Non, il ne peut pas. Une fois qu'il a kiffé, une fois qu'il a atteint ce qu'il voulait atteindre, ah, il a des remords, etc. Bah, tu vas payer maintenant de toutes les façons. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Tu vas payer. Concerte-toi tes remords. Parce que Dieu, il a mis en nous une qualité. Que un juif, il peut, la neshama d'un juif, une fois qu'il a fait la avéra, qu'il a quitté sa folie, eh ben tout de suite c'est l'âme divine qui ressort et il fait une vraie teshuva à ce moment-là. Il se dit je veux plus recommencer, mais vraiment je veux plus recommencer. Et c'est horrible parce que d'un côté il a le kiff de la avéra et d'un autre côté il a la volonté de la neshama qui lui dit no more, never again, on recommencera plus. C'est très compliqué. C'est on est déchiré à l'intérieur. Un juif il est déchiré constamment à l'intérieur. Ça, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il apprécie cet effort qu'on fait au fond de nous. Et il sait très bien que même s'il n'a pas réussi, il sait très bien qu'au fond de lui, il veut réussir. Il veut, dans ses yeux, il voit qu'il veut réussir. C'est ce qu'on dit ici maintenant.
C'est pas un juif qui est comme ça ? Tu mets un verre de vin devant un musulman, il va te le boire parce qu'il va kiffer, il va dormir tout de suite.
On dit que la Gemara a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné ça. Hein. Ça veut dire que, bien sûr que même les goyim, ils regrettent les fautes qu'ils ont faites. Ils regrettent. Mais ça veut dire le regret n'est pas aussi rapide que chez le juif. Chez le juif, comme il a une neshama qui est très puissante et que le yetzer hara doit mettre tout le paquet pour écraser cette neshama, dès qu'une fois que la vera a été faite, la neshama elle ressort.
Il regrette, t'as raison, même les musulmans, ils regrettent de ne pas avoir bu avant.
Ou pas assez.
Ah, mais ça c'est vrai ça. Toute personne qui a déjà fait une avéra et qui n'a pas fait d'avéra, d'accord ? À part David c'est sadique. Alors, toute personne qui a déjà fait une avéra, c'est très bien que l'instant que tu as terminé l'avéra, tu regrettes. Tu peux pas profiter d'une avéra à 100%. La Gemara dit que les Rechaïm, leur vie est pleine de regrets. On prend dans le texte maintenant. Alors il dit maintenant qu'en vérité il te dit. Donc pour reprendre.
Moi je casse des assiettes.
Le thème du. Hein ?
Il a dit c'est pour, on a le droit de casser si c'est pour réparer.
Non, qui a dit ça ?
Si tu casses des assiettes en plastique, ça c'est.
Non, où c'est écrit ça ?
Je l'ai lu quelque part.
Ah non,
pas du tout. T'as pas le droit de casser. Parce que c'est pas le tacherie, c'est pas le droit. Mais si tu casses quelque chose pour réparer, t'as le droit.
Mais pas du tout, c'est à soi. T'as pas le droit de casser.
Non, mais tu casses des assiettes en graisse, ça oui, mais pas.
Maintenant, si c'est casser un objet au lieu de casser une tête, bon, c'est...
on va tous offrir des boîtes.
Au contraire, casser pour reconstruire, c'est même assez pour un Shabbat.
Oui, pour Shabbat, non mais lui,
c'est que ça qui est.
Casser pour réparer.
Casser tout court, c'est pas son Shabbat.
Velazé, c'est pour ça. Maintenant, on aura beau taille. Alors, on est maintenant, j'accélère un petit peu, en bas de la page 77. Donc, pour résumer, on a expliqué l'importance qu'on doit accorder aux petits efforts. Il n'y a pas de petits efforts. D'accord ? Même un petit effort, ça a un impact éternel. Ah, tu vas me dire, oui, mais tout le temps, je promets que je vais m'arrêter et je m'arrête pas. Alors ? Bah, qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit, c'est pas grave. Chaque fois que tu fais tes chouvas, au fond de toi, tu promets de plus recommencer. Mais lazé, c'est pour ça, en bas de la page 77. Tiknou, voilà pourquoi les ramis m'ont instauré. Birkat Slachlanou, la bénédiction de Slachlanou. Shalosh Pe'amim Becholium. 3 fois par jour. Shacharit Mincha Arvit. Pourquoi ils ont instauré ça ? Quoi, vraiment, entre la tefila de Mincha et Arvit, directement, le gars, il a fauté, ça va, j'ai pas fait d'avira. Imaginez synagogue Sfarad, Mincha suivi de Arvit. Ah, Mincha, pardonne-moi, Arvit, pardonne-moi encore.
Une blague entre temps,
alors, qu'est-ce qu'il a pu faire? Eh ben, il te dit non. Il te dit, parce que l'avérote, une avéra, ça peut être beaucoup de choses. Une avéra, ça peut être une pensée interdite. Une avéra, ça peut être même Bitul Torah. Entre Mincha et Arvit, il y avait 5 secondes dans lesquelles j'aurais pu étudier, j'ai pas étudié. C'est une faute. Je veux dire, on n'est pas à ce niveau-là, oui, mais on n'est pas à ce niveau-là, mais c'est une faute. Et bien sur ça, on demande Slachlanou Kadosh Baruch Hu. Ou que Mo Atamid, comme le Korban Tamid, Shayam et Raper, Mizat Asse. Vous savez le Korban Tamid ? Au Beth Amikdash, il y avait un Korban qu'on offrait tous les matins, tous les après-midi, un sacrifice. Et ce Korban, dit la Gemara dans le traité Svarim, que ce Korban, il servait à pardonner sur tous les interdits positifs qu'on avait transgressés. Il pardonnait sur ça. Alors je comprends pas. À quoi ça sert d'avoir un Korban tous les matins ? Dès le départ, on a prévu qu'il y a un Korban tous les matins, tous les après-midi. C'est-à-dire qu'on a prévu, tu vois, qu'il y aura des fautes et qu'il faut les pardonner. C'est un truc de fou. Je sais pas comment te dire. C'est comme si, par exemple, tu vois, je dis, David, j'ai prévu que demain matin, je vais te demander pardon et demain soir, je vais te demander pardon. Tu dis, mais attends, pourquoi tu vas me demander demain soir? Parce que j'ai déjà prévu que demain après-midi, je vais fauter. Donc, il faudra demander pardon demain soir. C'est un truc de fou. C'est une folie. Eh ben, à Kadosh Baruch Hu, le Korban Tamid qu'on faisait, qui est l'équivalent de l'Amida, c'est un Korban qui est programmé pour demander pardon à Dieu pour les fautes. Et on savait, demain il est programmé, après-demain il est programmé, après-demain il est programmé, comme ma Amida. Elle est programmée demain matin, demain midi, demain soir, ce soir elle est programmée. Parce qu'on sait qu'on va fauter. Mais on sait d'un autre côté que quand on va faire teshuva, à ce moment-là c'est teshuva sincère. Alors il dit maintenant, il dit... Ve'ein ze echeta ve'ashuv, ela imken, c'est la question Abraham. Ve'ein ze echeta ve'ashuv, ela imken, shebeshat achet mamash, ou somech ala tshuva ou ela kachote. Abraham, il a posé la question, il a dit, vous vous rappelez, cette année, on a expliqué que celui qui dit, je ferai teshuva, on le laisse pas faire teshuva. Quelle est la différence avec notre cas? Pourtant, moi, quand je fais teshuva, au fond de moi, comme tu as posé la question de Michael, je sais très bien que je vais refauter. Alors à quoi sert cette échouva? Il dit, la question est, tout dépend qu'est-ce que j'avais dans la tête au moment de la faute. Et en vérité, ça le problème. Le problème qu'on a, c'est que quand je fais teshuva, je suis sincère. Quand je fais une avera, je suis aussi sincère.
Mais tu n'avais pas parlé du fait qu'on pouvait être fou au moment
où, oui,
on était anormal.
Exactement. Mais ce qu'il veut dire ici aussi, c'est que le juif, quand il fait teshuva, il est sincère à 100%. Et, mais quand il fait la faute, il est aussi sincère. Il est dans sa faute à 100%. Donc il y a vraiment une dualité, quoi. Il y a une dualité à l'intérieur. Comment ils appellent ça, ceux qui sont... comment ils appellent ça? Ouais, c'est comme... Ouais, moi, j'ai... Non, s'il y avait un mot, il y a un mot avec bi quelque chose.
Bipolaire.
Bipolaire, voilà. Bipolaire, schizophrène. C'est-à-dire qu'il a en lui, on a en nous, d'un côté une teshuva extraordinaire qui retourne des montagnes, d'un autre côté, des avérotes extraordinaires.
C'est l'obidote. La rigueur, la bonté.
Mais le chidouche qui veut dire ici, c'est le morazaken, c'est que la différence entre notre cas à nous et celui qui dit je compte sur la faute, je compte sur la teshuva pour refauter, c'est que celui qui compte sur la teshuva pour fauter, ça veut dire que cette teshuva n'est pas sincère à 100%. Cette teshuva, il est dans un compte avec Dieu. Il dit bon, je paye, je rembourse. Ça, on dit ça marche pas. Oui, il faut qu'au moment où tu fasses teshuva, t'es sincère à 100%. Vous savez, sinon, la Morazaka nous donne un exemple. Il dit, c'est comme si par exemple, quelqu'un, hein, imaginez par exemple, quelqu'un il passe ici devant moi et il me traite. Il dit, mais Mendy, mais quel imbécile ce Mendy. Bon, c'est, bien sûr, ça me blesse. Ça fait de la peine qu'il te parle comme ça. Il vient me voir le lendemain. Et il me dit, Mendy, je te dirai plus jamais imbécile.
Je dirai autre chose.
Non, mais est-ce que tu crois qu'il va venir te voir? Non, mais, parce que s'il vient te le dire alors qu'on est tous là, je pense qu'il ne va pas le lendemain. Hein.
Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? Il vient te voir le lendemain, il te dit, d'accord, il te dit, je te dirai plus imbécile.
Il a raison, ou il est fou, ou alors il est tapé.
Normalement, qu'est-ce qu'il veut dire le lendemain? Je te manquerai plus de respect. Alors, c'est la même chose quand c'est une avéra. Quand je fais une avéra et qu'après je fais teshuva, je dis je recommencerai plus cette avéra. Ben non, ça marche pas comme ça. D'ailleurs, quoi, les autres, tu vas faire? Le juif, au moment où il fait teshuva, il dit à Dieu, moi je suis un tzaddik, moi. Moi je suis un tzaddik, c'est fini, j'ai changé le monde, hein. Je recommencerai plus ce que je fais. Au moment où il fait teshuva, il imagine que c'est le tzaddik de la génération. Et au moment où il fait l'avéra, c'est le rachat de la génération. Et nous, on est les deux personnes en même temps. C'est comme ça. Mais chaque mitzvah qu'on a fait, c'est bon à prendre parce que c'est un impact à l'état éternel. Moi, je suis une dame comme Achem. Alors maintenant, Ubazé Yuvan, on va terminer avec ça. Ubazé Yuvan, avec ça, on va comprendre comment ça se fait, la raison pour laquelle la Matsiva Moshe Rabbeinu à la Vachalam à Mishneh Torah. Pourquoi Moshe Rabbeinu a ordonné dans le Chumash Bamidbar les Dor Shenichlesu la Aretz à la génération qui sont rentrés en Eretz Israël, l'Ikrot Kriat Shema Pamaim Becholiom. Vous savez que le Chumash Devarim, qu'on va bientôt commencer, est un chumash qui dure 5 semaines. C'est les 5 dernières semaines de la vie de Moshe Rabbeinu, et c'est un peu le testament de Moshe Rabbeinu à la génération qui va rentrer en Eretz Israël. Et dans ce testament, Moshe Rabbeinu rajoute des choses qui n'étaient pas écrites avant. Une des choses qu'il rajoute, c'est quoi? Il leur parle le schéma. Il parle à la génération qui va rentrer en Israël, et il leur dit, faites le schéma 2 fois par jour. D'accord? Il leur dit, l'ikrod kreat schéma parmi mechoyam. Maintenant, c'est quoi le but du schéma? Le but du schéma, c'est d'accepter le joug divin. Si j'accepte le joug divin 2 fois par jour, ça veut dire qu'entre-temps, je l'ai quitté, le joug divin. Parce que si je l'ai accepté une fois et qu'il est resté, j'ai pas besoin de le réaccepter. On est d'accord? Quand vous signez un contrat, je vais pas le re-signer le soir même. J'ai signé le contrat. Donc si je signe un contrat le matin et que je le re-signe le soir, c'est que qu'est-ce que j'ai fait entre-temps pendant la journée?
Je le signe le soir.
D'accord?
Je le signe le matin.
Hein?
Je le signe le soir.
D'accord. C'est qu'entre-temps, j'ai cassé le contrat. Moshe Rabbeinu, non mais c'est vrai, c'est bizarre. Moshe Rabbeinu, il aurait dû nous donner l'ordre d'accepter le joug divin.
C'est comme quand tu manges.
Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, dès le départ, il a instauré, vous accepterez le joug divin le soir et le matin? Mais attends, mais je comprends pas, mais si on l'accepte le soir, c'est qu'on l'accepte aussi pour la suite. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que, de ce qu'on attendait, c'est pas vraiment du raisonnement.
Juste dans l'ordre, si tu dis le soir, juste ça m'interpelle, parce que le matin. On peut penser quand même le laps de temps où on est plus actif, c'est quand même la journée.
Eh bien.
Et si on conduit par le soir et le matin, c'est-à-dire que c'est entre le soir et le matin qu'on a le plus de risques?
Ah bah évidemment. Non, c'est entre, non, c'est ce qu'il y a dans les zones entre les deux.
Non, le matin, c'est.
On peut fauter la nuit, on peut fauter la journée. Ouais. Entre les zones des schémas.
D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'on est deux personnes?
Non, c'est pas qu'on est deux personnes, c'est qu'on a en nous l'âme divine et l'âme animale. Et l'âme divine, quand elle y va à fond, et l'âme animale, quand elle y va aussi à fond. Et une fois, c'est l'âme divine qui prend le contrôle de mon corps, une fois, c'est l'âme animale. Donc quand je me dis qui suis-je,
ben finalement... Le moment idéal, dans ce cas-là, ce serait plutôt le soir et le amincha.
Ah non,
on a fait un cycle complet.
Parce que ça couvre la journée et la nuit. Le kriyat shema du soir, il couvre la nuit, il est censé couvrir la nuit, et le Kriyat Shema du matin, il est censé couvrir la journée. Ça veut dire que j'accepte le jour divin.
Ça va dans tout sens,
mais ce qu'il dit ici, il dit c'est pas logique. Il dit, je comprends pas. Ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu, dès le départ, il leur dit deux fois par jour, vous allez accepter le jour divin. Mais ils l'ont déjà accepté le matin. Pourquoi tu veux qu'il accepte le soir? Ça veut dire que même Moshe Rabbeinu, il connaît son peuple, il sait très bien qu'entre le matin et le soir, il peut se passer des choses. Et pourtant, on n'a pas peur de faire le Shema deux fois par jour.
Et d'accepter. C'est un contrat à durée déterminée. Quoi.
C'est un contrat. Non, mais c'est pas à durée déterminée.
C'est renouvelable.
Non, justement. C'est que au moment où je le mets, où je le fais le contrat, il a duré indéterminée. Mais concrètement, il a duré déterminée. Donc, je refais le contrat à durée indéterminée deux fois par jour.
Il n'est pas par passif reconduction. Là, je dois le re-signer à chaque fois.
C'est comme quand tu manges pas pour toute la journée.
Ah, ça sert à rien à voir.
Non, non, non.
Parce que quand je mange, je sais que ça va couvrir qu'une durée de temps spécifique.
Ouais, schéma.
Alors que le schéma, normalement, accepter le jus divin, ça devrait aller jusqu'à la fin du temps.
Et vaut mieux pour toi. Que... Il vaut mieux pour toi.
Alors, va allô, Iftiach lahem.
On peut dire aussi des fichach
irbalahem. Oui, mais ça veut dire quoi accepter le jour divin?
Il n'y a pas besoin en fait. Mais en théorie, il n'y aurait pas besoin.
Si je l'accepte, ça veut dire que je rajoute quelque chose que je n'avais pas avant. Sinon, je rajoute quoi sinon? C'est quoi le schéma? J'accepte le jour divin.
Non, mais je peux l'accepter qu'une seule fois dans ma vie.
Exactement. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? On fait le schéma deux fois par jour. Et c'est quoi le but du schéma?
Trois fois par jour.
Maintenant, le but du schéma, c'est accepter le jour divin. Ça veut dire que même Moshe Rabbeinu, même les tzadikim, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que même moi, j'ai peut-être un peu décroché entre les deux. Entre deux schémas. À son niveau. Chacun à son niveau. Au moment du schéma, il accepte le jour divin. Et après, dans les 12 heures qu'il y a entre les deux, il va peut-être décrocher un peu le jour divin. Et il faut le remettre.
Trois fois par jour,
le schéma. Mais au moment où je mets sur moi le jour divin, je me dis, j'y vais all the way, j'y vais à 100%.
Attends,
alors, bah allô.
Si, et même si je sais que c'est avant Moshe, mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont la conscience de la présence divine, ils sont sujets au
Ils sont sujets, mais c'était pas standardisé.
Oui.
Le chemin n'était pas standardisé. Il était standardisé par Moshe Rabbeinu. Bah allô. A priori, Iftiach lahem par dechem ou morachem itan Hashem. Qu'est-ce qu'on fait dans le chemin? Dans le schéma, on dit deux fois par jour, on accepte le jour divin. Ça veut dire quoi accepter le jour divin? Ça veut dire qu'on est prêt à donner sa vie pour Dieu. Deux fois par jour. Je dis, mais je comprends pas. Le même Moshe Rabbeinu qui leur demande d'être prêt à donner sa vie deux fois par jour, il rajoute un point là. Ce même Moshe Rabbeinu, il leur a annoncé, vous inquiétez pas. Akadosh Baruch Hu, il va s'occuper de vous. Vos ennemis vont tomber devant vous. Alors si les ennemis vont tomber devant nous, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de donner notre vie pour Dieu. Pourquoi il a besoin de leur dire deux fois par jour, n'oubliez pas deux fois par jour de donner votre vie pour Dieu? Mais j'ai besoin de donner ma vie puisque tu m'as dit que quand on va rentrer en Israël, c'est Dieu qui va se battre à notre place. Et là, on comprend le chidouche qu'on a expliqué depuis le début du cours, hein, que donner sa vie pour Dieu, c'est pas forcément mourir. Donner sa vie pour Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire abstraction de sa personne pour donner 5 minutes de son temps pour Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu te dit, tu aimeras Hashem ton Elohim, tu donneras ta vie pour Dieu, tu donneras de ta personne pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une mitzvah qui nous parle tous les jours, et sans problème deux fois par jour, parce qu'entre temps, on décroche. C'est ce qu'il dit ici. Et là seulement. C'est très fort ce qu'il termine avec ça, on termine ce livre. Il te dit que l'accomplissement, pourquoi le schéma Israël a une place tellement centrale? Parce que l'accomplissement de toutes les mitzvot dépend de ça. Chez Iskor, Tamid, Al-Inyan, Misirut, Nafsho, Lacham, Al-Ihudo. Se rappeler que je dois donner ma personne pour Akadosh Baruch Hu. Pour accomplir toutes les mitzvot, il faut se rappeler que c'est Dieu le patron et c'est Dieu qui décide et c'est pas moi qui décide. Tout tourne autour de ça. Une fois que j'ai compris ça, j'ai tout gagné. Et ça, il faut se le rappeler deux fois par jour parce qu'on, forcément, on décroche. Chez Yeinyanze, Mamash, Kavua, Belibo, Tamid, Mamash, Yomam, Valala, Loyamish, Vezichono. Moshe Rabbeinu voulait nous inculquer. Il faut que matin et soir, tu penses à Dieu. Pas seulement penser à Dieu. Penser au fait que qui c'est qui dirige le monde? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui gère le monde? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui gère tout. C'est pas moi qui décide. Tamid! Le korban tamid, on l'appelle aussi tamid. Tamid en hébreu, ça veut dire quoi? C'est quoi la traduction de tamid? Perpétuel. Perpétuellement, il faut se rappeler ça. Qui basé yucha l'amon negaditro. Parce que c'est uniquement comme ça qu'on peut combattre son yitzharara. Quand tu dis à ton yitzharara, quand je me bats avec toi, je suis sincère à 100%. Et que sache qu'en vérité, au fond de moi, je sais que c'est pas moi qui décide, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. C'est la seule manière de gagner face à son yitzharara. Il y a des gens qui pensent que le yitzharara, on peut jouer avec lui à l'intelligent. Dire, écoute, tu sais, c'est pas bien de faire une avéra, parce que si tu fais une avéra, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. Ça, le yitzharara, il donne des arguments pour contrer ça. Il va dire, bon, mais écoute, tu sais, ce qui se passe en haut, on verra. Maintenant, ici, moi, je te propose des plaisirs, ici et maintenant. Alors voilà, raconte pas tes histoires en haut. Il faut pas rentrer avec le yitzharara dans des arguments logiques. Parce que dans les arguments logiques, il nous écrase, il te propose un produit qui est devant toi. Alors que l'autre, c'est un futur, d'accord? Il y a des gens qui aiment le futur, d'accord? Qui vont investir, mais c'est un truc, on sait même pas ce qu'il y aura, on sait même pas de quoi il a l'air. Il dit, moi, je te propose un truc là, il est tout de suite, tu vas kiffer maintenant, après on verra qu'est-ce qu'il y a. faut pas rentrer dans un argument avec le Yitzhara. La seule vraie réponse au Yitzhara, c'est quoi? C'est le chemin Israël. C'est de dire, Dieu a demandé, donc c'est tout. Alors c'est vrai qu'on n'arrive pas tout le temps, mais on a la chance, on a la force, que deux fois par jour, et même plus trois fois par jour quand on fait l'Amida, on décide sincèrement de dire, je sais que le repère est là, que je dois revenir au repère, je dois revenir vers la Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, quand on fera ça, grâce à ça, Yuchal Amod Negaditro, on pourra se tenir contre son Yitzhara, les Natsrot Amid, on termine avec ça, le gagner, chaque instant, Bechol Et, Frol Sha'a, à chaque instant, canal, comme on expliquait plus tôt. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, la génération qui rentrait dans le désert, c'était une génération qui avait besoin d'avoir des mises en garde. Mises en garde de quoi? Il y a beaucoup de challenges qui vous attendent. Comme nous, quand on est dans la vie active, il y a beaucoup de challenges qui nous attendent. C'est difficile. Dieu, il va t'aider, mais le Yitzhara, il va te casser les pieds dans les petits détails de la vie de tous les jours. Et on te dit deux choses. D'abord, sache que pour avancer dans la Torah, il faut se fatiguer. Et sache que la fatigue n'est pas des grands projets, c'est même des petits détails, des petites résolutions. Je sais pas si je vous ai raconté ça. Hein. J'ai lu récemment une lettre du Rabbi, que le Rabbi, il avait écrit cette lettre avant Rosh Hashanah. Tu sais, avant chaque fête, il écrivait une lettre qu'il adressait à tous les chassidim. Et dans cette lettre, le rabbi disait la chose suivante, qui est très étonnante. Il leur disait, ne prenez pas des grandes décisions. Parce que quand on prend des grandes décisions, on ne les fait pas. Prenez des petites décisions. Mais des décisions que vous pensez que vous pouvez faire. Et on les prend. Ah, tu me dis, oui, mais concrètement, voilà, j'ai pris sur moi et ça n'a pas tenu. C'est pas grave. Chaque fois que tu as pris sur toi, chaque seconde que ça a tenu, eh ben c'est extraordinaire pour un Kadosh Baruch Hu. Et le but, c'est que chaque fois que je fais le schéma, que je fais l'amida, je me rappelle que je reprends sur moi le joug divin, et je me rappelle qu'en vérité, Dieu c'est le patron, et qu'en vérité, j'aurais dû l'écouter. Et chaque fois que je me le rappelle, c'est une teshuva qui est extraordinaire, et qui va jusqu'au kissé à Kavod, qui va jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Donc avec ça, on termine Baruch Hashem, le chapitre 25. Et avec ça, on termine un premier tronçon du Tanya, un premier grand tronçon du Tanya, qui a expliqué, donc pour résumer en d'autres termes, qu'est-ce qu'on a vu dans ce livre. On a expliqué qu'est-ce qu'un tzaddik, qu'est-ce qu'un rachat, qu'est-ce qu'un bénoni. Je pense qu'on arrive à la conclusion qu'on est tous plutôt des bons rachats, d'accord, on n'est pas des bénonis, parce que le bénoni, c'est celui qui contrôle son yitzhara. On a expliqué aussi longuement comment on doit combattre constamment contre son yitzhara, que, surtout, on a insisté beaucoup les derniers chapitres, combattre contre son yitzhara, c'est pas quelque chose qui est inaccessible, c'est quelque chose qui est accessible, qui est faisable, d'accord. Et qu'il ne faut jamais négliger les petits efforts. Au contraire, c'est avec les petits efforts qu'on avance. Alors, Bezrat Hashem, ce qu'on fera la semaine prochaine, on va prendre quelques minutes au début du cours pour faire, vous savez, avec les tableaux que je vous avais donnés au début, je ne sais pas si vous les avez encore, sinon enfin, je vais en réimprimer. On va refaire un résumé de tous les 25 chapitres. On va prendre environ un quart d'heure pour ça. Et là, vous allez voir que ça prend un autre sens. Vous allez voir qu'on va voir comment chaque cours qu'on a fait, où il se plaçait. Donc, on va Bezrat Hashem revoir tous les 25 chapitres qu'on a fait. Dans un diagramme comme ça qui va nous représenter tous les 25 chapitres. Et après, Bezrat Hashem, voilà, c'est ça. Ce qui on l'a fait, vous voyez. Donc il y avait 1 à 8, 9 à 17. Oui, mais attends, il y avait encore un autre. D'accord. Ah, je ne l'ai pas donné l'autre. Bon, en tout cas, il y a une autre feuille. Il y a 1 à 8, 9 à 17 et 18 à 25. C'est la troisième feuille. Tu l'as, 18 à 25? Bah, je ne voulais pas donner. Tu l'as, 18 à 25? Ah, vous ne l'avez pas. Vous l'aurez, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Voilà. Donc ça, c'est des résumés qu'on avait préparés qui avait beaucoup aidé. Dans le premier round du Tanya. Donc, Bezrat Hashem, on fera la semaine prochaine. Donc, on comptait environ, essayer de venir à l'heure si possible. On va dire les premières 20 minutes, peut-être 20, 25 minutes du cours. On va faire un résumé. Et après, on va attaquer. Je vous ferai un petit topo, un petit preview du chapitre suivant. Et après, on enclenche la Bezrat Hashem. Voilà.
Quand est-ce que le Mishkan est déterminé?
Il est déterminé le 25 Kislev, oui.
25 frakis,
ah oui, ça, oui. Un petit béton. Ah oui, non, mais sûr, non, c'est quelque chose, finir 25 rabbins d'ailleurs.
Non, mais il y a un rapport.
Oui, bien sûr.
Grâce à ça, maintenant Dieu considère en nous.
Bah, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont commencé le Tanya, commencé un chapitre, deux chapitres, trois chapitres, et après ils lâchent. Je vais vous dire, même autour de cette table, j'ai vu des gens qui sont venus, on a commencé, on était 35, d'accord. Et il y a des gens qui sont venus, bon, il y en a qui ont tenu. Moi, je dis col à cavotte, ceux qui ont tenu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on a terminé un premier tronçon. Maintenant, Bezrat Hashem. On va passer au prochain téléphérique, au prochain tronçon, à partir de la semaine prochaine. Voilà. Mais col à cavode, franchement, on peut se féliciter, et je vous félicite fortement, parce que je connais beaucoup d'amis qui ont commencé et qui n'ont pas terminé. Ils sont arrêtés, chapitre 2, 3, 4, après bon, ils ont dit bon. Et avoir la persévérance de continuer, même quand on ne comprend pas toujours, c'est pas rien. Et Bezrat Hashem, avec le résumé de la semaine prochaine, vous comprendrez encore mieux la structure générale d'où on est venu et où on est arrivé.
Pourquoi qu'on continue, justement? Ouais, ça, vous comprenez, on fait
ça. Voilà.
Il y a même des redoublants. Hein.